Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de Patara, l'émission hebdomadaire consacrée aujourd'hui à la problématique du retour au pays des acteurs de la crise centrafricaine, à l'exemple de l'ancien président de la République, François Bozizé Angouvanda. Le gouvernement centrafricain, dans sa quête de la paix, a signé un accord de paix avec les 14 groupes armés de Centrafrique à l'issue des discussions menées à Khartoum du 24 janvier au 5 février dernier. Un accord a été conclu le 6 février 2019 à Bangui. Le KNK, parti allié du régime actuel, a dans une conférence de presse dénoncé l'opposition de Bangui au retour de François Bozizé et le maintien sous contrôle judiciaire de son fils, l'ancien ministre délégué à la Défense, Jean-Francis Bozizé. Le porte-parole du MCU, Mouvement Cœur Uni, Évariste Ngamana, dans une interview accordée à Radio Ndeke Luka, a évoqué les sanctions des Nations Unies qui pèsent sur le retour de l'ex-président François Bozizé, une position renforcée par les documentations des Nations Unies qui n'avaient pas hésité d'arrêter Jean-Francis Bozizé dès son retour au pays. Question, pourquoi le gouvernement préfère-t-il tendre la main à certains acteurs concernés par les sanctions des Nations Unies tels que Nuruddin Adam, Abdoulaye Hissène, Ali Darassa et j'en passe? Par contre, François Bozizé et Michel Dotodia ne sont-ils pas concernés? Pourquoi Bangui est-il réticent à la participation des anciens présidents dans la recherche de la paix? Est-ce une méfiance politique du pouvoir vis-à-vis des anciens locataires du Palais de la Renaissance? Le KNK accuse Bangui d'avoir refusé de renouveler le passeport de l'ancien président François Bozizé, ce que réfute le pouvoir en place qui affirme prôner une approche inclusive. Peut-on obtenir la paix en laissant de côté les principaux acteurs de la crise? Pour en parler, je reçois autour de ce plateau Christian Guénébem, secrétaire national aux relations extérieures et porte-parole du parti KNK, allié du président Touadéra. Bonjour.
Bonjour.
Éloge Kouai, Doc Trouvé, militant du mouvement Cœur Uni, parti du président Touadéra et rapporteur général de la Synergie Centrafricaine, une organisation politique qui soutient l'action du chef de l'État. Bonjour, monsieur Kouai.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux auditeurs de Ndeke Luka.
Enfin, maître Albert Panda, avocat au barreau de Centrafrique et activiste de droits de l'homme, vice-président de l'OCDH. Maître, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Ndeke Luka.
Voilà, merci. Pour mener ce débat, Armando Nguenzi, je bénéficie de l'appui de Jean-Fernand Kouina et à la technique, c'est le travail de Herman Nambouna.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, la première question à vous, Monsieur Christian Guénébem. Sur quelle base vous vous fondez pour accuser le président Touadéra de ne pas favoriser le retour au pays de son mentor François Bozizé?
Alors, merci pour la question et merci pour l'occasion qui nous est enfin offerte de faire un débat sur cette question. Mais avant tout, je voudrais rétablir un premier point, puisque dans le propos liminaire, vous avez dit ici que la position du porte-parole du MCU était renforcée par la documentation des Nations Unies qui n'avait pas hésité à arrêter Jean-Francis Bozizé. Non, attention, Jean-Francis Bozizé a été arrêté par les forces des Nations Unies à la demande du gouvernement centrafricain suite à un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui par les autorités de la transition. Les Nations Unies ne sont pas une juridiction, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de commissariat chez eux, mais ils exécutent des actions à la demande des États membres. Il faut bien que ce soit précisé, parce que dire ce que vous avez dit, c'est comme si il avait un problème avec les Nations Unies, lesquelles l'ont pourchassé et ont procédé à son arrestation, ce qui n'est pas le cas. Il a bien été arrêté, et je le sais puisque j'y étais, j'ai été interpellé en sa compagnie, et ce qui nous a été notifié, c'est que nous avions été interpellés à la demande des autorités centrafricaines, et suite à un mandat d'arrêt qui avait été émis par les autorités de la transition. Ça, c'est vraiment important de le souligner.
Nouvelle accusation vis-à-vis du pouvoir.
C'est pas une nouvelle accusation. Tout le monde sait qu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été émis. Tout le monde sait que la MINUSCA les exécute au cas par cas selon ce que le gouvernement lui demande. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des mandats d'arrêt contre Nuruddin Adam. Nous savons qu'il y a des mandats d'arrêt contre Abdoulaye Hissène. Mais eux, à la demande du gouvernement centrafricain, ils sont transportés à Khartoum. Ils sont transportés à Addis Abeba. Alors pourquoi certains mandats sont-ils exécutés et pas d'autres? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. Maintenant, vous dites pourquoi est-ce que nous estimons sentiment que c'est Bangui qui s'oppose au retour du président Bozizé. Vous savez, quand vous parlez encore de la documentation des Nations Unies, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai pris la peine d'imprimer quelques résolutions et de venir avec. Et je vais vous lire les dispositions de la résolution 21-27, d'abord, dans un premier temps, sur le point numéro 56 dans les sanctions et qui disent pour quelles raisons on a mis des gens sous sanctions. Au point 56, on dit que ce sont des gens qui, par leurs agissements, compromettent la paix, la stabilité et la sécurité, notamment en se livrant à des actes qui menacent ou violent les accords de transition, en menant des actions qui menacent ou entravent le processus politique ou attisent la violence, en apportant leur soutien à ces actions, y compris en commettant des violations de droits de l'homme, etc. etc. Donc vous comprendrez bien qu'il y a toute une possibilité ou une litanie de faits qui peuvent être reprochés à ces différents acteurs et pour lesquels on avait décidé de les mettre sous sanction. Mais en parlant encore de la documentation des Nations Unies, et c'est là où vraiment les choses deviennent intéressantes, c'est que la résolution 2134, donc celle qui vient après concernant la République centrafricaine, toujours dans le régime de sanctions au point numéro 30, énumère ceci. Le Conseil de sécurité décide que tous les États membres des Nations Unies doivent, pour une période initiale d'un an, à compter de l'adoption de la présente résolution, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le comité créé au paragraphe 57 de sa résolution 21-27. Étant entendu que rien, je lis, que rien dans les dispositions du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux. Rien dans les dispositions de ces résolutions n'empêche un État d'empêcher le retour sur son territoire de ses propres nationaux. C'est ça la documentation des Nations Unies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le gouvernement centrafricain voulait qu'un national rentre, rien dans le dispositif des Nations Unies ne l'empêche. Et c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, et c'est un fait, que c'est le gouvernement centrafricain qui ne permet pas le retour du président Bozizé. Et j'irai plus loin que lorsque je vais affirmer que sur la question de son passeport, mais le passeport, ça fait 2 ans qu'il est entre les mains des autorités. Je suis le mieux placé pour vous le dire, je suis le porte-parole du KNK. N'eût été le fait que nous sommes sur les ondes, je vous donnerai même le nom du médecin centrafricain qui a récupéré ce passeport à Kampala et qui l'a remis au ministre Charles Armel Douban, lequel étant embarrassé compte tenu de la délicatesse de ce dossier n'a pas pu le traiter et s'est rendu au palais de la Renaissance rencontrer le chef de l'État qui depuis lors conserve ce passeport de part de vers lui. C'est un fait, c'est une affirmation. Et aujourd'hui, dire le contraire, je voudrais que quelqu'un vienne me traiter de menteur.
Voilà, je tourne vers vous, monsieur Eloge Koy, vous avez compris. MCU en brandit, au MCU, au mouvement qui est réuni du président Touadéra, en brandit la bonne foi de Faustin-Archange Touadéra. Alors, y a-t-il un froid dans les relations de Faustin-Archange Touadéra et François Bozizé?
Merci Armando. Je suis quand même étonné d'écouter les affirmations gratuites de mon frère Guénében. Je ne me mettrai pas à la place du gouvernement pour répondre à certains aspects de ce qu'il a développé tout à l'heure. Mais je vais répondre en tant que centrafricain, en tant que citoyen, observateur, avant d'être membre du MCU et rapporteur général de la synergie centrafricaine qui soutient effectivement les actions du gouvernement. Mon frère Guénében a dit tout à l'heure que le président Faustin Archange Touadéra détient par devers lui le passeport de l'ancien président Bozizé. Pourtant, c'est au sein de ce même parti KNK qu'on soutient une autre version, celle selon laquelle c'est le ministère des Affaires étrangères qui détiendrait ce passeport. Vous voyez, il y a déjà 2 versions différentes, contradictoires.
Mais le ministère des Affaires étrangères géré par le ministre du président actuel?
Écoutez, géré par le ministre et géré par le président, c'est 2 choses différentes. Quand on dit que c'est détenu par le président ou alors c'est détenu par le ministre, vous voyez que c'est 2 personnalités différentes.
Mais peut-être des injonctions viennent du président ou bien du responsable. C'est peut-être de ça que le parti KNK se focalise.
Je ne pense même pas que cela puisse être le cas. Pour quelles raisons le gouvernement interdirait-il, n'est-ce pas, le renouvellement du passeport du président Bozizé qui a servi la République? Mais c'est un fils de la République. Je pense qu'il ne faudrait pas déplacer le débat. Il ne faudrait pas chercher à porter des cornes au président Touadéra pour montrer au peuple que c'est Touadéra qui empêche le président Bozizé de retourner au pays. Je pense que mon frère a parlé tout à l'heure des résolutions de Nations Unies. Et moi, je pense que après l'attaque de Bangui du 5 décembre 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 700 morts. Et à l'issue de cette attaque, les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, s'est réuni et le comité de sanctions a pris une résolution pour interdire le voyage à un certain nombre de citoyens centrafricains, notamment dont le président Bozizé, et également de geler ses avoirs.
droit. Alors, c'est vrai, il n'y a pas une juridiction coercitive, comme disait tout à l'heure mon frère, mais vous savez, et il a pris le soin de préciser qu'il y a eu un mandat d'arrêt lancé par les autorités de la transition. Mais Touadéra n'était pas le président de la transition. Et vous savez que l'État...
Le principe de continuité de...
C'est un principe de continuité. Mais je ne me place pas dans cette logique. Moi, ce que je veux relever, c'est quoi? Le président Touadéra n'a pas de griefs contre le président Bozizé. Pourquoi il interdirait de revenir dans son pays? Moi, je pense qu'à un moment donné, dans une démocratie, les citoyens ont des droits, mais aussi des devoirs. Et la liberté s'accompagne de la responsabilité. Quand vous posez des actes, quand vous incitez des gens à aller attaquer la population, quand vous incitez les gens à s'en prendre à la population, mais vous devez savoir qu'il y a une responsabilité pénale. Et je pense que le problème ne se pose pas vraiment à ce niveau. Si le président Bozizé veut revenir au pays, mais il est libre.
Mais, mais puisqu'il n'a pas de passeport sur lui.
Écoutez, le problème de passeport, attendez, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas membre du gouvernement pour répondre, mais je voulais juste relever le fait qu'il y a déjà une contradiction lorsqu'on parle du président Touadéra ou bien du ministre. Mais finalement, ça veut dire qu'il y a un petit problème qui se pose.
Oui,
alors moi, je voudrais, permettez-moi de terminer, Armando. Je voudrais dire que le problème ne se pose pas là.
Oui, mais le problème ne se pose pas là. Quel est aujourd'hui le droit et le devoir de François Bozizé dans ce cas?
Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que M. François Bozizé, l'ancien président de la République centrafricaine, est sous sanction des Nations Unies. Nous le savons tous. Tous les Centrafricains le savent. Ce n'est pas Touadéra qui est le président du comité de sanctions. Ce n'est pas Touadéra qui est le président du conseil de sécurité. Mais c'est une sanction prise par le comité de sanctions des Nations Unies.
Et voilà, exécuté à ce niveau par le pouvoir. Je reviens vers vous, monsieur Christian Guinébem. Donc, selon vous, les Nations Unies sont à la solde de Bangui?
Les Nations Unies ne sont à la solde de personne.
Oui.
Comprenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les Nations Unies exécutent les mandats qui lui sont confiés, premièrement par le Conseil de sécurité, et deuxièmement par l'État dans lequel ils agissent. Au jour d'aujourd'hui, les Nations Unies en Centrafrique sont investies d'une mission d'appui au processus judiciaire. Et c'est ça. Et dans ce cadre-là, ils exécutent les mandats d'arrêt que le gouvernement centrafricain leur demande d'exécuter. Je ne l'invente pas. Le porte-parole Montero est venu ici sur cette onde le défendre à plusieurs reprises. Tout le monde le sait. Et je vous répète que moi, j'ai été interpellé par la MINUSCA en compagnie de Jean-Francis Boisé et de M. Henri Grotte. Je suis quand même bien placé pour vous dire qu'est-ce qui nous a été notifié. Que nous avons été arrêtés à la demande du gouvernement centrafricain. C'est le premier élément. Le deuxième élément, moi ici je dis que dans ce discours qui est tenu par nos amis du MCU, il y a quand même le deux poids deux mesures. On nous dit que certaines personnes qui posent des actes doivent s'attendre à en payer les conséquences. Et on nous dit aussi que d'autres personnes qui posent d'autres actes doivent s'attendre à être tout simplement épargnées. Aujourd'hui, on a installé Ali Daras comme gouverneur du centre de la RCA. Les Nations Unies étaient présentes, l'Union africaine était présente, le gouvernement représenté par le Premier ministre. Ça n'empêche pas qu'à la suite, à Zangba et autres, l'UPC continue de massacrer.
Et Ali Daras est aussi sous sanction.
Il est sous sanction des Nations Unies et tout le monde le sait. Et ça ne dérange personne. On n'exécute pas le mandat d'arrêt qui a été émis à son encontre et on n'écoute pas ni les autorités judiciaires, ni les militants du MCU venir nous dire que ceux-là vont être amenés demain aussi à répondre. Troisièmement, il dit que tout le monde a des droits, tout le monde a des devoirs. Et que lorsque on pose des actes, il faut s'attendre à répondre des conséquences. Laissez Bozizé rentrer, venir répondre des conséquences des actes qu'il aurait posés selon vous. La justice centrafricaine est là. Et aujourd'hui, à aucun moment, le président Bozizé n'a déclaré vouloir se soustraire à une quelconque procédure. Mais puisqu'on ne lui permet pas de rentrer, et je vais plus loin, quand on dit que c'est faux que le gouvernement ne s'y oppose pas, je dis, une note circulaire a été signée par le ministre des Transports sortant, M. Théodore Jussot, faisant interdiction à toutes les compagnies aériennes embarquer, et je cite, l'individu Bozizé pour tout vol à destination de la République centrafricaine.
Vous avez le document,
monsieur. Oh là là, mais c'est quelque chose qui a été ventilé dans la presse, c'est connu. Ne venez pas ici jouer à celui qui n'est pas au courant. Moi, je vous dis qu'il y a des faits. Et ces faits-là tendent à démontrer qu'il y a une, même plus qu'une réticence au retour du président Bozizé. Maintenant, les raisons. Quelles en sont-elles? Je pense que si vous aviez un peu de bonne foi, vous nous aideriez non seulement à comprendre cela et à ouvrir les yeux. Et je répète encore, pour une meilleure audition, au point 30 de la résolution 2134 de 2014, que rien dans les dispositions du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux. Voilà. C'est la documentation des Nations
Unies. Monsieur Guénébem, on va écouter Maître Panda. Les sanctions des Nations Unies excluent-elles la participation de ces anciens présidents? Je voulais parler de François Bozizé et de Michel Ndoutoudia à la recherche de la paix dans leur pays.
Bon, au-delà de la question de participation à la recherche de la paix, il se pose à la base ce problème de la possibilité ou non qui pourrait être donnée, qui pourrait être donnée aux anciens chefs d'État de revenir dans leur pays. Vous savez que la constitution centrafricaine mentionne que nul, donc parlant de centrafricains, ne peut être contraint à l'exil. Nul ne peut être contraint à l'exil. Donc, vous voyez, ça fait partie des libertés fondamentales que la Constitution reconnaît à tout centrafricain. Mais certains n'ont peut-être pas connu l'exil, mais ceux qui l'ont connu savent que ce n'est pas une bonne chose. On n'est bien que chez soi. Et quand je vois sur les réseaux sociaux des images de notre ancien président, je pense qu'il y a même des montages où on le montrait, il serait en train d'aller chercher je ne sais plus quoi, un truc de Western Union. Je trouve que ça, ce n'est pas bon pour nous les Centrafricains.
Et donc, selon vous, Bangui a violé la Constitution?
Je n'ai pas dit cela, je ne sais pas, je suis en train de suivre là, mais je rappelle tout simplement que nul ne peut être contraint à l'exil. Et M. Guénébem vient de nous lire les dispositions ici, même s'il y a des instructions pour qu'aucun pays ne le reçoive, mais son pays peut le recevoir. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit ici, son pays peut le recevoir. Et je voudrais aussi dire que dans notre pays, il y a eu des précédents. Notre pays, malheureusement, a connu de multiples crises. Et à la suite de ces crises, des anciens chefs d'État ont dû quitter le territoire. Je pense au cas du président Patassé, président Kolingba. Mais à un moment donné, ces personnalités sont retournées dans leur pays. Et je pense qu'il est temps, de penser à trouver une solution à cette situation pour que ces anciens chefs d'État, s'ils veulent retourner dans leur pays, mais qu'ils le fassent. S'il y a des poursuites contre eux, mais ils répondront de ça devant la justice. Ils bénéficient, comme on aime à le dire maintenant,
de l'amnistie,
de la présomption
De la présomption d'innocence. Ils n'ont qu'à revenir dans leur pays. Il y avait Bokassa aussi qui était revenu. Bon, lui, il avait surpris tout le monde. Il était revenu. Bon, mais il est passé. Il a répondu de ses actes devant la justice. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il y a des poursuites engagées contre une personne, il y a ce qu'on appelle l'action publique. À partir du moment où il y a une action en justice, c'est une machine qui est lancée et qui ne s'arrêtera que lorsque la justice sera prononcée sur le cas. C'est ce qu'on appelle l'action publique. Donc, s'il y a eu des actions, des poursuites qui ont été engagées depuis l'époque de la transition, mais il y a continuité, la justice peut décider à un moment donné d'actionner cela.
Oui, maître, au regard des arguments soulevés par les uns et les autres, pour vous, est-ce un problème de droit ou un règlement de compte politique à ce niveau?
Je n'ai pas tous les éléments pour vous répondre directement, mais ce qui est là, c'est que évidemment, on ne peut pas. Vous savez, il y a toujours cette tentation de penser que si l'ancien chef d'État revient ici, il pourrait y avoir des menaces, des troubles à l'ordre public. Vous savez, c'est ça. Parce que l'une des missions des États, c'est d'assurer l'ordre public, hein, éviter des troubles à l'ordre public. Est-ce que c'est cette crainte que ce retour pourrait provoquer, d'entraîner des menaces ou provoquer des troubles à l'ordre public? Est-ce que c'est ça? Mais pour moi, ce ne serait que peut-être la principale raison qui pourrait motiver, des actions du genre dénoncé par notre frère Guénébem. Mais sinon, je pense que l'expérience a montré, et pour les trois autres anciens chefs d'État qui sont rentrés, hein, il y a eu Bokassa, Bon, il était arrêté à l'aéroport parce que personne ne s'attendait à son arrivée. Et comme il y avait des poursuites contre lui, bon, il a été amené en justice. Il a comparu, il a été condamné, mais enfin, après, il a bénéficié d'une grâce. Mais les deux autres chefs d'État sont rentrés aussi. Il y a eu Patassé, il y a eu le président Kolingba. Qui est à l'entrée, qui ont, je pense, ont pris part à la vie politique de notre pays.
Notre pays. Voilà, je tourne vers M. Christian Guenébem. Un rapport des Nations Unies a indiqué que François Bozizé voyageait avec une fausse identité. Confirmez-vous cela ?
J'ai été interrogé à multiples reprises, y compris sur les ondes de votre antenne. En 2018, ce rapport, moi, on m'a interrogé sur sa véracité. Voici les éléments de réponse. Je pense qu'il s'agit d'experts des Nations Unies qui sont suffisamment sérieux pour ne pas proférer d'allégations mensongères ou aventurières. Mais encore une fois, j'avais posé la question de savoir s'il est avéré que le président Bozizé se déplace avec une identité autre que la sienne. Quelles en auraient été les raisons ? Et j'avais dit déjà à cette époque que le problème du renouvellement de son passeport faisait que, même dans le cadre des exemptions prévues au régime de sanctions, qui prévoit trois exceptions. La première exception, c'est que la personne sous sanction est amenée à se déplacer pour des questions humanitaires, y compris motifs religieux. On appelle ça une exception, dans laquelle on permet à tous les États de le recevoir. L'autre exception, c'était de dire... si le voyage que l'individu entreprend concourt au rétablissement de la paix. Voilà une deuxième exception. Et la troisième exception, c'était pour des questions d'ordre médical. J'ai avancé comme élément que le président Bozizé, aujourd'hui, n'a pas le même âge que moi. Et j'ai mon père, qui a quasiment le même âge que le président Bozizé. Ce sont des gens qui, de manière régulière, doivent faire des bilans de santé, doivent contrôler leur état de santé pour vérifier si tout va bien. Parce que lorsqu'on arrive à un certain âge, eh ben, tout simplement, le corps ne répond plus de la même manière que lorsqu'on avait 30 ans. Et la question que moi j'ai posée en retour, c'est, puisqu'il n'a pas de passeport, c'est connu, il n'a pas de passeport centrafricain en cours de validité. Comment voulez-vous qu'il se déplace pour les cas prévus par les exemptions au régime de sanctions ? Et d'ailleurs, ça fait plus d'un an. Et si nous étions tous de bonne foi, étant donné ce cri d'alarme, cet appel au secours, dans un cadre humanitaire que nous avions lancé il y a plus d'un an, si nous étions tous de bonne foi, je pense qu'aujourd'hui il aurait un passeport. Mais il n'en a toujours pas. Alors la question est la suivante. Demain, il souhaite se rendre en pèlerinage au Bénin, dans son église. Il y va comment ? Demain, il est souffrant, il souhaite se rendre dans un centre médical spécialisé dans un pays autre que celui de son lieu d'exil. Il s'y rend comment ? Voilà la véritable question. Et ici encore, je remercie Maître Panda de nous avoir fait un rappel à la loi, notamment la loi fondamentale, l'article 5 de la Constitution. Mais il y a surtout ici une question de droit de l'homme. Il a le droit d'accès aux services de santé. Il a le droit d'exercice religieux. C'est des questions de droit de l'homme. Et ce sont des libertés fondamentales.
Donc vous persistez.
Aujourd'hui, il ne peut pas les exercer de manière libre, puisqu'il est de notoriété publique qu'il n'a pas de passeport centrafricain en cours de validité. On me répondra que personne ne détient son passeport, personne ne refuse de lui renouveler. Prenons date. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2019. Je vous garantis que lundi matin, moi, je me rapprocherai du service du ministère des Affaires étrangères, service des passeports diplomatiques, pour faire une demande de renouvellement du passeport du président Bozizé. Et je reviendrai sur cette onde-là, vous dire quel est le résultat. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de nous mentir.
Voilà, Monsieur Koy Eloge, hein, le KNK dénonce une violation des droits de l'homme contrairement à sa gestion du pouvoir à l'époque de François Bozizé. Quelle lecture faites-vous ?
Mais d'abord, vous savez, c'est la démarche qu'il fallait entreprendre. C'est ce que je viens.
Qui a été entrepris et le passeport est confisqué.
J'espère. Oui. Entreprenez cette démarche et revenez sur l'antenne dire si ça n'a pas été entendu.
Et je dans pense ce cas, que... ce problème date de quelle année en ce nouveau ?
Le passeport du président a expiré depuis 2 ans déjà.
Vous avez écouté, ça fait 2 ans.
Écoutez, j'ai dit tout à l'heure et je rappelle, je ne suis pas membre du gouvernement et je maîtrise mal ce dossier. Je ne veux pas m'aventurer là-dessus.
Mais donc,
tout ce que je
pas.
Sais, tout ce que je sais.
Pas.
Non, laissez je réponds en fonction de ce que c'est la réalité dans la délivrance des passeports diplomatiques et surtout un ancien chef d'État. Je suis quand
la
même
démarche a été j'ai engagée. Été vous n'êtes
même...
pas du gouvernement.
Non,
vous ne le savez pas.
Je
ne répondez pas.
Je sais comment
pas.
Ça se passe. Je
ne
sais comment
pas.
Ça se passe. J'ai été
oui, vous savez comment ça se passe.
D'un ministère.
Et moi aussi.
Et donc.
Et on est n'est pas là pour faire le déroulé de nos curiosités.
Mais on le sait.
Voilà.
Si vous le savez, vous n'avez pas à dire que vous accusez les gens comme ça.
Du gouvernement.
Vous ne pouvez pas accuser les gens sans
avoir
les éléments de réponse.
Moi, j'ai les éléments.
Quels éléments de réponse? Quels éléments de réponse?
Je suis le porte-parole du parti de l'ancien président.
Ne veut pas dire que vous avez tous les droits
d'intérêt du président.
Ou alors sous les éléments de réponse. Non, je ne suis pas d'accord. Être porte-parole du SCANCA ne veut pas dire.
Appeler les autres à la responsabilité.
Non, non, non. Écoutez,
il se comportait comme ça.
Je
dis qu'il n'est pas du gouvernement.
Mais bien sûr, je ne peux pas répondre à tous les aspects de la question.
Mais ne répondez pas.
Je vous en prie.
Ne répondez pas.
Certains aspects. Baissez un peu le ton.
Voilà.
On évolue dans le débat.
Non, non. Vous ne pouvez pas obliger les gens de ne pas exprimer leur opinion. Je suis désolé, mon frère.
Mais vous répondez à ma question tout à l'heure, monsieur Koué.
Permettez-moi de.
Je disais tantôt que le KNK a dénoncé une violation des droits de l'homme, contrairement à sa gestion du pouvoir à l'époque de François Bozizé. Quelle lecture en faites-vous?
Mais quelle violation de droits de l'homme?
Mais c'est déjà, on a dit que le passeport de l'ancien président était confisqué par le pouvoir actuel.
Mais c'est ce que je dis. Ça, c'est sa version. Ça, c'est sa version.
Que vous n'êtes pas en mesure de contredire, vous n'êtes pas du gouvernement.
Comment je peux pas être en mesure de
vous n'êtes pas
contredire?
Je dis, c'est votre version. Laissez
et vous cherchez à diaboliser le gouvernement.
Laissez
c'est rien
du tout. Venir me
répondre. Non, non, non.
Monsieur Guénébert,
le gouvernement va vous répondre en qualité de qui?
Vous n'êtes que citoyen.
Ah non, non, mais voilà.
Ok, tant mieux.
Je vous coupe.
Donc, d'après vous, le gouvernement ne peut pas faire cas d'un citoyen.
Non, non, non. Mais pas
ah mais oui, mais
le
vous me
gouvernement
dites
est là,
qui,
c'est le gouvernement du peuple.
Je suis sud-africain, je suis
il gère les intérêts du peuple. Il peut répondre à n'importe quel citoyen.
Je suis membre à part entière de ce peuple et moi j'interpelle le gouvernement en lui disant
vous interpellez le gouvernement en qualité de qui?
En qualité de citoyen.
Non, non,
en qualité de citoyen.
Vous n'êtes pas un parlementaire pour interpeller le gouvernement, mon frère.
Monsieur Koué, monsieur Koué, respectez mon débat, c'est moi qui donne la parole aux gens. Si je vous dis qu'on se respecte dans ce débat, respectez mon travail, monsieur Guinebem, est-ce que vous pouvez permettre à ce que M. Koué puisse développer son
bien
argument.
Bien entendu.
Vous avez la parole.
Voilà, M. Guénébel a toujours tendance à couper les autres alors que pendant que
continuez, vous avez déjà la parole, je vous en prie.
Ben, voilà. Donc je dis, il n'y a pas eu violation de droits de l'homme. Il n'y a pas eu violation de droits de l'homme. Et s'il y a violation de droits de l'homme, mais c'est les gens qui se sentent lésés, mais ils n'ont qu'à saisir les juridictions compétentes. C'est tout. Moi, je défends une chose. Un monsieur a été mis sous sanction onusienne. Que tout le monde, que ce soit à Bangui, comme dans les villes de province, comme à l'extérieur, que M. François Bozizé est sous la sanction onusienne. Mais je ne suis pas contre le président Bozizé. Moi, je voudrais qu'on restitue la vérité. Vous savez, dans la sortie de crise est un moment particulièrement sensible dans le cycle de vie d'un conflit. Et le conflit tel que nous l'avons connu en République centrafricaine est un conflit profond. Et donc, il doit y avoir une stratégie de pacification et de reconstruction de l'État et de la légitimité de l'État qui doit, n'est-ce pas, passer par une voie qui est la plus durable. Je veux dire, la voie de négociation, la voie de dialogue. Et c'est cette voie que le président Touadéra a entreprise et je pense que c'est la meilleure voie pour notre pays.
Et si y a, vous si voulez quelqu'un se sente... à l'accord de paix de Khartoum...
Mais bien sûr, tout ça, ce n'est qu'une suite logique. Après, vous voyez, c'est des démarches. Quand on veut arriver à la paix définitive, à la paix durable, il y a des démarches. Nous avons commencé par le dialogue, que certains avaient critiqué qu'il fallait procéder par la force, alors que la force n'a jamais résolu un problème de façon durable. Le président Touadéra a choisi la voie de dialogue, de négociation. Cela a permis d'arrêter, ne fût-ce que de manière, on va dire, précaire, certes, mais on va évoluer vers la résolution définitive et durable de cette crise, de ces hostilités. Il y a eu arrêt des hostilités. Et maintenant, nous avons évolué vers la signature d'un accord et... Il y a une troisième étape qui est l'étape de stabilisation de la paix qui doit être mise en place par l'application de cet accord. Et moi, je pense que si des gens se sentent lésés dans certains trucs, mais on est tous des citoyens.
Mais les discussions, vous le savez, M. Koué, les discussions de Khartoum n'ont pas pris en compte l'ancien président François Bozizé et Michel Ndoutoudia.
Mais écoutez, c'est vrai qu'ils n'ont pas été nommément cités, mais c'est un accord inclusif.
C'est un accord global, inclusif. A demandé même de participer personnellement à cette discussion.
Est-ce que les formes ont été respectées? C'est ça la question. Parce que c'est un processus qui a été mené de bout en bout par l'Union africaine. Alors donc, je ne vois pas pourquoi le gouvernement devait s'opposer à la participation du président Bozizé à ce dialogue. Mais je me demande, est-ce que les démarches ont été respectées? C'est ce que j'ignore. Alors moi, je pense que, pour terminer, Armando, vous permettez, s'il y a un problème par rapport au passeport du président Bozizé, je ne pense pas que c'est le président Touadéra qui va empêcher le renouvellement de ce passeport. Pour quelle raison il va le faire? Il n'a rien contre le président Bozizé. Il n'a absolument rien contre lui. Et moi qui vous parle, j'ai soutenu...
Et c'est son ancien,
mais voilà, patron. Mille et une fois, j'ai soutenu le président Bozizé, parce que c'est un centrafricain. Je pense qu'il ne faudrait pas diaboliser le président Touadéra pour des raisons que j'ignore, pour justifier quelconque...
Merci, monsieur Koué. Maître Panda, activiste de droits de l'homme, hein, que prévoient les dispositions du point de vue de droit vis-à-vis de l'accord de Khartoum, où les uns et les autres ont évoqué ici?
Bon, monsieur Koué, il disait que c'était un accord... Inclusif. Or, inclusif entre qui et qui? Entre groupe armé et gouvernement. Mais vous savez que, avant de venir, j'ai relu encore la lettre du président Bozizé à l'Union africaine, responsable de l'Union africaine, et une lettre au centrafricain aussi, où transparaissait le souhait de pouvoir être associé à ce dialogue. Les partis politiques n'ont pas été associés, la société civile non plus. Donc c'est un accord qui a été passé entre le gouvernement et les groupes armés, et c'est tout. Donc je ne suis pas d'accord, tout à fait d'accord avec M. Koué quand il parle d'accord inclusif. Parce que l'accord inclusif, ça veut dire que c'est vraiment toutes les composantes de la nation qui sont associées à cet accord. Et c'est ce que nous critiquons. Cet accord est la copie conforme de l'accord du Mali. Donc vous voyez, la communauté internationale, et c'est ce que nous avons toujours dénoncé au niveau de la société civile, crée des crises dans nos pays. Et à ces solutions, à les solutions toutes faites dans la mallette et se promène avec, et nous les fait avaler. Tous les changements dans nos pays, là, toutes les crises, là, quand j'entendais, vous avez évoqué l'attaque du 5 décembre 2013. Mais qui a provoqué cette crise-là, cette attaque-là? Qui était derrière les Balaka? Qui était derrière ça? Nous le savons maintenant. Nous le savons. Qui a renversé le régime du président Bozizé? Nous le savons maintenant. Hein? C'est des groupes montés, instrumentalisés, avec 80% de mercenaires étrangers qui sont venus. Donc vous voyez un peu, il faudrait que nous retournions aux véritables causes de tout ce qui arrive dans nos pays, et nous pourrions avoir une autre lecture de tout ce qui...
Et les véritables causes, c'est quoi selon vous?
Les véritables causes, ben, vous et moi, nous tous là, nous sommes restés esclaves dans notre propre pays.
Jusqu'alors?
Ben, jusqu'alors. L'indépendance n'est que d'apparence. Notre destin nous échappe. Ce sont d'autres qui dictent ce qui doit arriver chez nous, qui commandent tout ce qui doit arriver chez nous. Voilà la véritable réalité. Nous, de la société civile, nous voudrions que les Centrafricains arrivent à ce niveau-là. Lorsque nous arriverons à ce niveau, à essayer de comprendre les causes, et vous voyez, on crée des problèmes, on nous oppose les uns aux autres.
On nous oppose, vous voulez ici accuser l'Occident?
Enfin, j'accuse l'impérialisme, l'impérialisme d'une manière générale.
Mais en vous écoutant, maître, hein, au regard de vos arguments, est-ce que vraiment c'est cette question qu'on devait poser, comme a dénoncé le KNK, y a-t-il violation de droits de l'ancien président François Bozizé à ce niveau? C'est ça, c'est ce qui pose problème.
Non, vous savez, le débat d'aujourd'hui, je pense, est utile. Et il va interpeller le gouvernement pour trouver une solution, je le souhaite, à ce problème. Et comme même a suggéré notre frère Koué, mais il faudrait que de l'autre côté aussi, il y a la justice. Quand on refuse à un centrafricain certains droits, il faut saisir les juridictions, M. Guenebem. Il faut saisir les juridictions. Mais pour que tout ça, ça ressorte au grand jour, mais c'est ça. Donc, en fait, tout ce qui a été fait, on n'est pas au courant. Mais je pense qu'il y a la juridiction administrative qui est là.
Hein? La justice doit faire son travail.
La justice doit faire son travail. La justice est là, justement, pour régler ce genre de problème de manière à ce que la sérénité revienne. Peut-être que la compréhension de la notion de sanction des Nations Unies n'est pas... la compréhension n'est pas faite de manière convenable. Hein? Mais donc, il y a eu des dispositions qui ont été lues ici. Moi, je pense que c'est tout citoyen, a le droit, enfin à ma connaissance, il n'a pas encore perdu la citoyenneté centrafricaine. Tout citoyen a le droit d'avoir un passeport,
mais
d'avoir
une carte d'identité,
d'avoir un passeport.
Ne pensez-vous pas que c'est la nomination de certains responsables de groupes armés à des postes de responsabilité de l'État qui a suscité la réaction du KNK à ce niveau? Même le porte-parole en a mentionné tout à l'heure.
Ben, je pense que le porte-parole a déploré le fait qu'il y ait eu deux poids, deux mesures, ça je l'ai noté. Ben, vous voyez, cela pose problème. Ben, cela pose problème. Mais peut-être à la lecture de ce que vient de nous dire notre frère Koy, c'est peut-être dans la stratégie. Est-ce que c'est bien ça? Ben, dans la stratégie pour parvenir à la paix. Pour parvenir à la paix, c'est peut-être ça.
Mais on va revenir sur cette question.
La paix n'a pas de prix.
Oui, on va revenir sur cette question. Monsieur Christian Guenébem, pourquoi le KNK préfère l'option politique à l'option judiciaire? Est-ce un manque de confiance à la justice nationale?
Non, il ne s'agit pas ici d'un manque de confiance. Et justement, à entendre ce que disait Maître Panda, lorsqu'il nous invitait à saisir les tribunaux, j'avais l'intention d'aborder ce point que vous êtes en train de soulever. Vous comprendrez bien que jusqu'aujourd'hui, malgré les désaccords qui peuvent nous lier au mouvement Cœur Uni et au gouvernement, jusqu'aujourd'hui, le KNK n'a pas encore dénoncé son alliance. Nous demeurons au jour d'aujourd'hui alliés du gouvernement, alliés du MCU, alliés du président Touadéra, même si le fossé se creuse davantage chaque jour. Dans une logique de ne pas envenimer les choses, nous avions souhaité et nous avions pensé que c'était beaucoup plus opportun que les choses soient réglées de manière politique entre alliés. Il est un fait que nous nous sommes trompés. Nous sommes maintenant au bout de cette démarche de conciliation entre alliés. Et je vous l'ai dit, lundi matin, je vais engager une nouvelle procédure aux affaires étrangères. Et à la suite de celle-ci, si nous n'obtenons pas gain de cause, les tribunaux vont se prononcer. Mais moi, je voudrais aussi vous situer davantage sur les faits. Le mercredi 27 février 2019, le président de la République recevait en audience les différents partis politiques. Il était assisté de son Premier ministre et c'était des consultations en vue de la formation du gouvernement post-Khartoum. Le KNK, comme les autres formations politiques, a été reçu et nous avions donc été invités par les hautes autorités à appuyer la mise en œuvre de l'accord de Khartoum. Au cours des débats que nous avons eus pendant cette audience, il a été fait mention par le président de la République lui-même de la correspondance que son homologue, l'ancien président François Bozizé, lui a fait parvenir, une correspondance datée du 13 février 2019, que en ma qualité de porte-parole du KNK, et c'est pour ça que je réponds là-dessus à M. Koy en lui disant que je suis bien placé pour vous parler des faits et gestes du président Bozizé et des initiatives qu'il prend s'il a déposé une demande de passeport ou pas. Je suis bien placé pour vous le dire et moi j'ai une copie de cette lettre ici. Cette lettre que le président Touadéra nous a dit qu'il a bien reçue, qu'il est en train d'étudier et qu'il est en train de voir les voies et moyens d'y répondre. Dans cette lettre...
Vous avez bien dit qu'il est en train de...
Oui, mais écoutez, ça fait 3 ans qu'on nous dit ça. Qu'on est en train de voir les voies et moyens pour faire rentrer le président Bozizé. Quels étaient les discours qui étaient tenus pendant la campagne? Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, qu'est-ce que nous constatons? Donc, nous dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Et surtout, le faire dans des délais, entre guillemets, raisonnables. Le président Bozizé lui a dit... Bien que n'ayant pas participé personnellement et connaissant la délicatesse des discussions dans le cadre de ces pourparlers, je ne peux que vous féliciter, Excellence Monsieur le Président, sur la conclusion du dit accord de paix et de réconciliation. Ce paragraphe-là dénote de l'adhésion du président Bozizé malgré le fait qu'il a été tenu à l'écart des discussions. Et pour répondre à la question sur le risque ou la crainte de troubles à l'ordre public, lorsqu'il s'adresse au président Touadéra, il appelle bien Excellence Monsieur le Président, ce qui est une reconnaissance de sa légitimité et de son pouvoir. Lorsqu'il s'adresse au président Touadéra, il lui dit bien qu'il sait que les pourparlers ont été difficiles, mais qu'il le félicite pour avoir conclu l'accord, ce qui veut bien dire que ce n'est pas lui qui va venir pour faire la remise en cause de ce qui a été mis en place. Il poursuit en disant « Je tiens à vous réitérer mon entière disponibilité, comme je l'ai toujours affirmé dans mes initiatives et déclarations, en faveur de la réconciliation et de la paix en République centrafricaine, notre beau pays. » Sous-entendu que, si moi, vous me permettez de rentrer à Bangui, ce n'est pas moi qui vais venir déstabiliser parce que je vais toujours travailler en faveur de la réconciliation et de la paix. C'est écrit, le président Touadéra a attesté l'avoir reçu.
Mais pour quelle raison?
Attendez, et plus loin, parce qu'on nous dit que la question du passeport, ce n'est pas vrai, etc. Je vous rappelle que cette lettre est datée du 13 février 2019. Plus loin, et lorsqu'il dit que Il souhaite rentrer chez lui. Ce document conclu entre les groupes armés constitue la plus récente référence actualisée pour une sortie de crise et contient des éléments concordants en faveur de mon retour dans la dignité.
Donc c'est une demande.
Et il cite, bien sûr, et il cite la Constitution du 30 mars qui dit que nul ne peut être contraint à l'exil. Et plus loin, il conclut en disant « À cet effet, la délivrance des documents de voyage pour moi-même et pour mon fils Jean-Francis Bozizé serait un préliminaire qui attend votre décision. » Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Si avant tout ce que nous racontions en 2018, etc., le président n'était pas saisi, mais depuis le mois de février, il est saisi. J'ai la copie de la lettre, je peux vous en donner une copie si vous voulez, monsieur Coy. Et vous verrez que depuis le mois de février, au moins, le président Touadéra est saisi de la question du renouvellement du passeport. Vous voyez, il y a des choses qui ont été faites, mais tout n'est pas bon à dire. Il y a des choses qui vont plus loin que cette correspondance. Mais tout n'est pas bon à être révélé parce que, je vous l'ai dit, nous avons un statut. Et notre statut d'allié du président Touadéra voulait à ce que nous ayons de la réserve et que nous ne le mettions pas en difficulté plus que nécessaire. Mais il s'avère aujourd'hui qu'à la lumière des faits, je parle des faits, et je vais citer un autre fait, en présence d'un praticien du droit, un avocat au barreau de Centrafrique, le contrôle judiciaire auquel est astreint l'ancien ministre délégué Jean-Francis Bozé, il est encadré dans la loi par des délais. Des délais qui, largement, depuis plus de 2 ans, sont dépassés. Des délais aujourd'hui qui font que, même si la procédure venait à être poursuivie, nous pourrions l'attaquer pour des vices de procédure. Mais alors dites-moi concrètement, pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi certains sont astreints à ce type de traitement, tandis que d'autres récoltent les lauriers du sang versé? Expliquez-nous, parce que nous, notre problème, il est à ce niveau-là.
Oui,
nous savons que la paix n'a pas de prix, mais nous estimons qu'on ne peut pas demander uniquement à un seul côté de faire des sacrifices pendant que les autres sont aujourd'hui facilités dans tout. Ce n'est pas normal. Alors oui, nous étions de ceux qui réclamaient le dialogue dès le début. Je vous rappellerai que le KNK n'avait pas participé au forum de Bangui en dénonçant sa non-inclusivité. Et que depuis le forum de Bangui, nous réclamions un dialogue inclusif. Lorsque l'Union africaine a été en charge de la feuille de route, le KNK a été quasiment l'un des seuls alliés du président Touadéra à soutenir son initiative de ce dialogue, que nous voulions inclusif. Et je pense que nous avions communiqué largement à ce sujet. Nous sommes de ceux qui savons que des sacrifices doivent être faits pour la paix, mais nous ne voulons pas que les sacrifices soient toujours consentis par les mêmes.
Voilà, monsieur Koya, vous avez écouté cet argument de monsieur Christian Guinée-Bem. Pour quelles raisons, par exemple, le président actuel Faustin Archange Touadéra mettrait-il des obstacles à son ancien mentor?
Aucune raison. Et je suis content d'apprendre l'existence de cette correspondance qui date, comme il a dit tout à l'heure, du mois de février 2019. C'est-à-dire, on est à 3 mois de cela. C'est une correspondance qui est adressée au président de la République, qui a des responsabilités, qui a d'importantes responsabilités. Alors, je pense qu'il faudrait lui laisser le temps d'exploiter. Vous savez, deux fois, quand quelqu'un pose un acte, vous pensez, entre guillemets, l'ignorance, qu'il vous fait du mal. Comme a dit mon frère tout à l'heure ici, c'est pas tout, on va dire, sur les ondes. Mais je pense sincèrement que le président Touadéra n'a aucune raison pour s'opposer au retour de l'ancien président François Bozizé à Bangui. Mais je voudrais relever une chose par rapport au contrôle judiciaire de l'ancien ministre délégué Francis Bozizé. Je pense que, comme a soulevé tout à l'heure mon frère Guinée-Ben, le contrôle judiciaire, et je parle sous le contrôle de maître, si je dis faux, il va me corriger. Le contrôle judiciaire, c'est une procédure pénale, n'est-ce pas, dont l'objectif est de concilier les libertés individuelles et la protection de la société. Et à ce sujet, je dis qu'il peut être maintenu jusqu'à la fin de l'information judiciaire ou alors jusqu'à la comparution devant la juridiction. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, avec cette procédure contre
l'ancien ministre délégué Francis Bozizé.
Voilà. Vous savez, tout contrôle judiciaire, il y a des obligations. Il est assorti des obligations. Des obligations qui sont imposées à la personne. Des obligations qui sont, n'est-ce pas, prises pour 3 cas, par exemple. Éviter la fuite de la personne, éviter une récidive et éviter également et pour garantir la protection des victimes. Mais pour le cas d'espèce, c'est vrai. On peut dénoncer, mais il faudrait aussi être en mesure de respecter, n'est-ce pas, les obligations du contrôle judiciaire.
Comment?
Par exemple, on t'oblige à te présenter régulièrement devant le juge d'instruction en charge de ton dossier. Tu es interdit, par exemple, de te rendre dans certains endroits. Tu es interdit de sortir
de certaines limites fixées par la, comment dire,
le
contrôle judiciaire. Mais quand tu ne respectes pas, le non-respect peut entraîner une mise en détention.
Donc vous voulez parler du non-respect ici vis-à-vis
effectivement,
de
l'ancien ministre délégué Francis Bozizé. Effectivement, je pense que le ministre Francis Bozizé, tout le monde le sait, il fait des déplacements, on entend aujourd'hui, il est à Maïki, demain il est à Nola, on sait qu'est-ce qu'il veut.
Je peux
voyez
ce non, point
donc on joue sur le temps, c'est beaucoup.
Non, on n'est pas là.
Ce qu'il dit est important.
Il dit qu'on est tous alliés, mais un allié ne peut pas s'attaquer à son allié de façon.
Voilà, je tourne vers Maître Kenneper. Je vous en prie,
je voudrais qu'on respecte un peu.
Il n'y a pas de temps, il n'y a pas assez de temps.
Non, les faits,
une minute.
Les faits sont clairs, précis et têtus. Je répète, le contrôle judiciaire est encadré dans la loi par des délais. Pendant les délais légaux de ce contrôle judiciaire, il s'est entièrement astreint et au-delà même des délais.
Non, c'est à cause de ça qu'il a dit, donc c'est fini.
Arrivé à un moment, oui. Son contrôle judiciaire n'a pas été renouvelé. C'est vérifiable au parquet. Ce n'est pas renouvelé. Mais on continue de détenir son passeport, on continue de lui imposer certaines astreintes. À un moment, il dit non. Mais puisque ce n'est pas renouvelé, la loi dit, arrivé au terme du délai, ou on me renvoie devant les tribunaux,
c'est bon.
Ou on me remet en liberté. Mais ni l'un ni l'autre n'ont été faits. C'est ça la vérité.
Maître Panda, rapidement, hein, c'est ça, peut-on la obtenir la paix en laissant de côté les principaux acteurs de la crise? Je voulais parler de Michel Ndoto-Diagne Ndrogo et François Bozizé Ngouvounda.
Enfin, avant de répondre à votre question, pour revenir à la question du contrôle judiciaire.
Rapidement, oui.
Rapidement, je pense que si... En fait, le ministre Francis Bozizé pense que les conditions ne sont plus réunies ou que la loi n'est pas respectée.
Ou cela a trop duré.
Je pense.
L'action a déjà été intentée.
Ben, c'est ce que je voulais
par
dire.
Par son conseil, Maître Opalin.
Ok.
Voilà. Et rapprochez-vous, vous verrez l'aberration des suites réservées.
Bon, ok. Donc, c'est pour dire que les voies de droit sont là pour pouvoir attaquer un certain nombre de comportements qui ne seraient pas conformes à la loi. Bon, mais comme Maître Palagnan a déjà pris la situation, mais on laisse la justice
avant son entrée au gouvernement.
Oui, ok. Et ma question tout à l'heure, je vous en prie, on est limité par le temps, Maître.
Ok. Bon, oui, la question que vous avez posée, pour y répondre, vous savez, nous avons vu pour le président Bozizé, il dit qu'il est disposé à revenir pour apporter son concours aux efforts qui sont faits en vue de retrouver la paix. Et je pense que le président Bozizé, le président Ndoto-Diagne sont des personnalités qui ont derrière eux un certain nombre de compatriotes, mais qui voient en eux leur leader ou leur responsable, etc. Pour les associer à tout ce qui est en train de se faire peut aider. Et je pense aiderait même beaucoup mieux que d'associer des mercenaires étrangers tels que nous les connaissons.
Hein? Vous pouvez les citer.
Oui,
nous les connaissons.
On les connaît. Le Darassa, par exemple. Hein? C'est un étranger, Peul étranger. Hein? Il n'est pas Peul centrafricain, mais Peul étranger. Donc vous voyez, par exemple, je pense qu'on gagnerait à s'entendre entre fils du pays. Bozizé est centrafricain, Ndoto-Diagne est centrafricain. Bon, mais évidemment, je pense qu'il faudrait qu'on se dise d'abord la vérité entre nous. Faudrait qu'on se dise la vérité entre nous pour savoir, c'est ce que je disais toujours, comment nous avons fait pour être utilisés les uns et les autres pour arriver à cette crise. Est-ce que nous nous engageons à faire en sorte que nous, centrafricains, nous ne nous prêtions plus à ce genre de jeu pour faire souffrir notre peuple? Voilà, c'est ça.
Monsieur Kouaï, hein, même question pour vous. Vous pensez qu'en mettant de côté François Bozizé et Michel Ndoto-Diagne, la paix pourrait véritablement rétablir très vite?
Pas du tout. Et je pense que le président Touadéra n'est pas dans cette logique. S'il était dans cette logique, il n'aurait jamais entrepris la question, la démarche, l'approche du dialogue et des négociations. Et là, il n'entend exclure personne. Il n'entend mettre personne de côté et personne ne sera abandonné à la gare. Et je pense que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal ce que vient de dire Maître Panda. On est centrafricain et on a besoin de régler notre maison, de laver notre linge sale
en famille.
Et c'est chez nous.
C'est chez nous. Nous voilà. avons besoin de ça. C'est
Dernière
absolument
question vers vous,
ouais. important.
Même question. Pas même question, mais pour vous. À 2 ans des élections groupées, pourquoi l'ancien chef d'État François Bozizé se précipite-t-il de rentrer au pays? Aurait-il l'intention de présenter à la prochaine présidentielle?
Il cherche à rentrer depuis l'époque de la transition. Comme l'a dit Maître Panda, l'exil n'est pas bon. Ce n'est pas autre chose.
Peut-être il a manqué à l'élection présidentielle de 2016.
Je ne vous le souhaite pas. Mais comprenez que vivre en exil, avec ses avoirs gelés et sans aucune source de revenus, c'est difficile. Comprenez cela. Et j'ajouterai, pour terminer, que la situation du président Bozizé et du président Diotto Dia, leurs situations ne sont pas similaires. Le président Diotto Dia n'est pas sous sanction des Nations Unies. Le président Diotto Dia ne fait pas l'objet de mandat d'arrêt. Il est libre de rentrer dès aujourd'hui. Personne ne peut l'en empêcher.
Mais ici, on parle de la paix.
Je dis, il est libre de rentrer dès aujourd'hui. C'est de son vœu. Est-ce qu'il manifeste l'envie de rentrer? Est-ce qu'il ne la manifeste pas? Je n'ai pas de contact avec lui, je ne peux pas vous y répondre. Le président Bozizé manifeste l'envie de rentrer parce que la vie d'exil n'est pas bonne.
Donc il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2020.
Mais vous pensez que le président Bozizé veut rentrer pour être candidat? Je vous dis, ce n'est pas la raison. Maintenant, je vous dis aussi que rien ne l'empêche au jour d'aujourd'hui, aussi bien dans la Constitution, aussi bien dans la loi centrafricaine, aussi bien dans le nouveau code électoral qui vient d'être adopté et qui bientôt sera promulgué, rien ne l'empêche d'être candidat s'il décide de faire acte de candidature.
Voilà, fin de ce débat politique Patara sur Radio Ndekeluka. Merci à tous de l'avoir écouté. Le sujet, je le rappelle, portait sur la problématique du retour au pays des acteurs de la crise centrafricaine, cas de François Bozizé Yanguvonda, ancien président de la République en exil depuis 2013. Nous avions invité dans cette émission Christian Guinebem, secrétaire national aux relations extérieures et porte-parole du parti KNK allié du président Touadéra. Merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir invité.
Éloge Kouaï, Dr V, militant du mouvement Cœur Uni, parti du président Touadéra et rapporteur général de la Synergie Centrafricaine, une organisation politique qui soutient l'action du président de la République et du gouvernement. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation.
Merci Armando.
Et merci bien à vous aussi, Maître Albert Panda. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Centrafrique et activiste de droits de l'homme, vice-président de l'OCDH.
Merci Armando.
À la partie technique, Herman Nambouna, j'ai bénéficié de l'appui de Jean-Fernand Kouina. À l'animation, Armando Yanguindi. À la prochaine.